La légende de la boussole par E.A.S. Paul. La route par mer de Sorinthe à Amalfi est un perpétuel enchantement. Le bateau côtoie de délicieux villages perchés sur les monts, comme Cesarano sur San Martino, qui mêlent la fumée de ses cheminées à la vapeur des nuages, ou comme à Trani, caché dans une vallée si étroite et si sombre qu'on la prendrait pour l'entrée d'une immense caverne. Ce dernier village n'est en quelque sorte qu'un faubourg d'Almafi, dont il n'est séparé que par un promontoire. Lorsqu'on a doublé ce cap, Amalfi apparaît, combien déchu de son ancienne splendeur. Cette ville, qui rivalise avec Venise, n'est plus qu'un amas de maisons, la plupart délabrées, formant le cercle à mi-côte et dominant la plage et les quais déserts. Plus rien de ces murailles, les arsenaux ne sont plus qu'un souvenir, comme les innombrables galères qui peuplaient ses eaux. Qui dirait aujourd'hui que c'est cette ville qui fonda la législation maritime et perfectionna l'usage de la boussole, si, comme on le verra plus loin, la mention doit lui en être déniée. Son rouge drapeau ne flotte plus sur les murailles écroulées, non plus que l'étendard des chevaliers hospitaliers. Elle ne bat plus monnaie comme autrefois, encore que ses hôteliers s'entendent à dévaliser les voyageurs. Jamais les touristes de marque allaient loger au fameux couvent des Capucins, bâti sur les rochers. On se contente maintenant de l'osteria, lorsqu'elle est parvenue à s'échapper des mains avides des facchini, qui se mettent à quatre pour porter une valise. Une des grandes causes de la décadence d'Amalfi, sinon l'unique, c'est que la mer, rongeant ses côtes, gagne toujours sur les terres et règne à présent en maîtresse absolue où se trouvait autrefois le centre, le cœur de la ville. L'auberge où j'étais descendu est une grande bâtisse, de construction relativement récente et peinturlurée du haut en bas à la mode italienne. La grande salle du rez-de-chaussée est surtout fréquentée par la population maritime. Les rues sont en escalier, véritables casse-cou, tantôt recouvertes de voûtes, tantôt à ciel ouvert, coupées par de petites places où grouille un peuple en haillons. Ça et là, une église sans caractère, la cathédrale elle-même, si vantée, n'est pas fort ancienne et ne mérite certainement pas les éloges des guides italiens. La plus grande partie est une restauration du XVIIIe siècle, dans le mauvais goût de l'époque. Il faut cependant admirer la façade et ses curieuses portes de bronze. On y accède par un escalier monumental, et l'on rend immédiatement justice au parti que l'architecte a su tirer de la situation. Cette façade rappelle le style arabe avec ses ogives entrelacées reposant sur des chapiteaux. Les nervures de ces ogives, peintes d'un brun foncé, se détachent d'une façon originale sur la pierre blanche de la muraille. À l'intérieur de l'église, dont le plan forme la croix grecque, la nef centrale est supportée par 18 piliers de marbre antique, comme les colonnes du maître-autel. Le baptistère est formé d'une splendide conque de porphyre rouge, et l'on voit avec surprise deux tombeaux de provenance grecque, dont l'un représente l'enlèvement de Proserpine et l'autre les noces de Tétis et de Pelée. Sous l'édifice est une crypte ornée d'une statue de saint André, patron d'Amalfi. Ces ossements furent enlevés au commencement du XIIIe siècle à l'église des saints apôtres de Constantinople pour être transportés à Amalfi et renfermés dans une châsse précieuse puisque, dit-on, le cercueil qui a reçu le reste du saint est en argent massif. Mais on ne peut le voir. On dit, mais je n'ai pu non plus le vérifier, qu'il coule parfois de cette châsse une huile parfumée ou mania qui a la propriété miraculeuse de guérir les douleurs. C'est entre cette église et la tour du Campanile, datant du XIIIe siècle, que se trouvait le cimetière ou Campo Santo, où étaient inhumés les plus illustres citoyens d'Amalfi. On n'y voit plus qu'un cloître qui ressemble un peu à celui d'Arles. Quant aux tombes, le temps ne les a pas respectées et les pierres tumulaires ont été enlevées par des mains sacrilèges. Là se trouvait pourtant la sépulture de Flavio Gioja, que les Italiens considèrent comme l'inventeur de la boussole, et dont l'existence même paraît problématique aux savants. Sa mémoire est restée pourtant parmi le peuple, et une légende naïvement versifiée l'a conservée à défaut des archives et des chroniques du temps. La découverte de Gioja aurait été due au hasard, vers le commencement du XIVe siècle, et de même que l'amour inspira le premier dessin, ce fut ce dieu puissant qui donna à Flavio l'idée de se diriger sur la mer au moyen de l'aimant. La voici telle qu'elle nous fut contée à Sorrente par un cicérone plus intelligent que ses congénères. Flavio Gioja excellait dans l'art de la damasquinerie et de l'incrustation sur métaux jadis importés par les Sarrasins. Orphelin de bonheur, il occupait l'humble demeure patrimoniale, un étroit rez-de-chaussée surmonté d'un toit plat et qu'éclairait une large baie ouverte durant le jour. Une vaste pièce qui lui servait d'atelier, un cabinet sombre où il couchait, composait tout son logement. Dès le lever du soleil, il était à l'ouvrage, martelant les fils d'or ou d'argent, dont il incrustait l'acier des épées et les dagues, chantant d'une voix sonore les barcaroles napolitaines ou sorrentines. Ses voisins s'arrêtaient souvent pour écouter Flavio et l'avaient surnommé Gioja, la joie, surnom qui lui resta et sous lequel il est connu. Un jour, cependant, les chants s'arrêtèrent, et l'écho oublia de renvoyer les refrains joyeux du damasquineur. On s'en étonna. « Es-tu malade ?» lui demandèrent ses amis, le voyant préoccupé et le visage un peu pâle. « Je ne me suis jamais mieux porté, » se contenta de répondre Flavio en activant le feu de sa forge. Comme il était peu communicatif, on cessa de s'occuper de cette mélancolie soudaine. Seule, une jeune voisine qui le trouvait à son gré dit en soupirant « Il est amoureux. »« C'est bien possible, » répondirent les commères qui avaient passé par là. Voici ce qui était advenu. Un matin que Flavio, égayé par un rayon de soleil qui se jouait à sa fenêtre, défilait son chapeau de canzonette, il s'interrompit tout à coup et devint très rouge. Il venait d'apercevoir une adorable fille arrêtée à quelques pas de la fenêtre et qui semblait prendre à l'écouter un secret plaisir. Se voyant découverte, la jolie dilettante devint pourpre à son tour et tous deux échangèrent un long regard où le plaisir se mêlait à la confusion. Instinctivement, Flavio salua la jeune fille qui, ne voulant pas être en reste de politesse, lui rendit son salut et s'enfuit. Penché sur l'appui de sa fenêtre, le damasquineur suivit longtemps des yeux la céleste apparition dont les cheveux d'or flottaient sur son épaule. Puis, lorsqu'elle eut disparu, il reprit son travail en soupirant, mais les chants avaient cessé. Sans doute que l'amour, qui donne la voix au rossignol, la retire aux pauvres humains. Plusieurs jours s'écoulèrent, durant lesquels Gioja leva bien souvent les yeux de son établi pour inspecter la rue, mais la jeune fille ne revint pas. En son esprit, il évoquait cette vision fugitive, il revoyait ses grands yeux qui semblaient deux pervenches ouvertes, l'ovale si pur de cette figure, que le Sanzio eût rêvé pour une de ses madones et cette harmonieuse démarche qui le comparait à celle d'une déesse s'il eût été poète. Un matin qu'il travaillait silencieusement, la tête baissée sur son ouvrage, une ombre s'interposa entre la lumière et lui. Brusquement, il releva la tête. La jeune fille était devant lui. Un sourire candide éclairait son visage. « Vous ne chantez donc plus ?» lui demanda-t-elle. « Non, depuis que je vous ai vu. »« Suis-je donc un trouble fait ?» répondit la jolie fille, essayant de plaisanter pour dissimuler son embarras. « Dieu me préserve de proférer un pareil blasphème !» s'écria le damasquineur avec feu. « Mais jamais si gentille demoiselle ne s'était arrêtée devant ma pauvre maison, et aussi vrai que le soleil nous éclaire, à partir de cet instant, je n'ai pas eu d'autre pensée. » Si gauchement qu'il fut tourné, le compliment ne parut pas déplaire à celle qui en était l'objet. Néanmoins, elle crut devoir changer le cours de l'entretien. « Vous êtes armurier ? » demanda-t-elle en désignant du doigt une poignée d'épée ciselée sur laquelle Flavio incrustait des fils d'or. « Non, » répondit le jeune homme, « mais je trace et j'applique ces ornements sur des armes. » « Je suis damasquineur. » Flavio Gioja. « C'est un bel état, » fit l'enfant avec une naïve admiration. « Dieu, que ces dessins sont gracieux, on dirait des joyaux. »« Si cela vous ferait plaisir, » reprit Flavio, « je pourrais vous faire une belle croix incrustée d'or et d'argent. »« Oh !» dit la jeune fille d'un ton de regret, « nous ne sommes pas assez riches pour porter de si belles choses. Mon père est un simple pêcheur de thon, Domenico Muro, si vous l'avez entendu nommer. » « Il me semble, » répondit le damasquineur, qui montait impudemment. « Mais, » ajouta-t-il, « il ne faut pas que ce soit la dépense qui vous effraie. La matière que j'emploie a peu de prix. C'est le travail qui lui donne sa valeur, et je serai heureux de vous offrir le mien, mademoiselle Angiola, » répondit la fille du pêcheur. « Je vous remercie de votre bonne volonté, mais je n'ai aucun titre pour l'accepter. »« Si vous le vouliez, vous pourriez en avoir un, » reprit Flavio en s'enhardissant. « Et lequel ?»« Celui de fiancé, par exemple. »« Oh !» fit Angiola en retirant doucement sa main que le damasquineur avait saisie. « Nous nous connaissons à peine. »« Eh bien, » continua Gioja, Vous n'avez qu'à passer tous les jours devant ma maison, la connaissance sera bientôt faite. » Angiola secouait sa jolie tête. « Par malheur, nous demeurons trop loin, à la conque, et quand mon père est à la maison, comme nous n'avons plus ma pauvre maman, que Dieu ait son âme, je reste auprès de lui. Pensez-vous qu'il me permettrait de vous rendre visite? J'en doute. Quand même, cela ne servirait pas à grand-chose, car nous allons quitter le pays. Les tons se font rares sur la côte, et mon père ne se plaît pas dans cette maison où ma mère est morte. » Les traits du jeune homme s'assombrirent. « Et où allez-vous demeurer ? » interrogea-t-il. « Aux îles Gali, où il va tendre ses tonaros. Qu'appelez-vous ainsi ? Ce sont des filets, où viennent se prendre les thons. Là, je serai comme en un pays perdu, séparé du reste du monde, sauf le dimanche où nous viendrons quelquefois à terre, mon père et moi. Alors je ne vous verrai plus. Dame, le moyen. Elles sont donc bien loin, ces îles. L'île Castelletto, celle que nous devons habiter, est à plusieurs lieues en mer en face de Positano. C'est un voyage. Il faut remonter la côte et partir de grand matin pour arriver avant la nuit. On ne peut donc s'y rendre directement sans faire ce long détour ? Non, à cause des courants, qui viennent du large et qui font perdre leur route au bateau. Oui, fit Gioja songeur, il faudrait quelque chose qui les maintienne dans la ligne droite. Comment n'a-t-on pas trouvé cela ?
Il est vrai, reprit Angiola, que le chemin en serait bien abrégé.
N'importe, mademoiselle, si vous me le permettez, j'irai voir votre père. Je n'ai pas de famille, j'ai pour toute richesse mon travail et cette petite maison, mais je suis honnête homme, estimé, je peux le dire, de ceux qui m'emploient, et si je ne vous déplaisais pas. » En prononçant ces derniers mots, Flavio leva les yeux sur Angiola, dont les joues se couvraient de rougeur. « Écoutez, répondit-elle après un court silence, mon père m'a souvent répété que je n'appartiendrai qu'à un marin. Pourtant, si vous voulez tenter de le faire revenir sur sa décision, eh bien... »
« Eh bien ?» interrogea Flavio anxieux.
« Je ne vous le défends pas. Vous êtes un ange. Angiola seulement. Adieu, je serai grondé. N'oubliez pas, Domenico Muro, pêcheur à la conque. J'oublierai plutôt mon nom. »
Le lendemain, Gioja s'acheminait vers ce petit havre, dominé par un immense rocher perpendiculaire et auquel sa courbure a valu son nom. Domenico Muro accueillit assez froidement la proposition matrimoniale de Flavio.
« J'ai décidé, répondit-il, que ma fille épousera un matelot, comme toutes les femmes de la famille. »
« Eh bien, répondit le damasquineur, j'en serai quitte pour changer d'état. »
Domenico secoua la tête. « C'est un métier qu'il faut apprendre d'enfance, et tu ferais une bêtise de quitter celui qui te fait vivre. »
« Mais j'aime Angiola, répondit Flavio naïvement, comme si cette réponse eût dû couper court à toute objection. Le pêcheur ne put s'empêcher de sourire.
« Eh bien, répondit-il, par façon de raillerie, trouve-moi seulement le moyen de traverser directement des îles à Amalfi sans être obligé de suivre la côte et ma fille est à toi. »
« Je ne dis pas non, » riposta le jeune homme avec assurance. Sur cette parole, les deux hommes se séparèrent. Pendant près d'un mois, les voisins du damasquineur furent très surpris de le voir, en passant, interrompre souvent son travail pour contempler un objet placé dans un bassin rempli d'eau. C'était une pierre d'aimant qui lui servait à ramasser la limaille d'acier répandue à la place où il travaillait, ainsi que les outils délicats qu'il laissait souvent choir et qu'il faisait flotter en la plaçant sur un morceau de liège. Puis, on l'aperçut très affairé à la construction d'un petit instrument composé d'une mince tige d'acier qui reposait en équilibre instable sur la pointe d'un cône d'argent très évasé. Entre-temps, Domenico Muro et sa fille Angiola avaient dû s'établir à l'île de Castelletto. Le jour de leur départ, Flavio était allé prendre congé d'eux, et avant de les quitter, « Dimanche, dit-il au pêcheur, j'irai réclamer l'exécution de votre promesse. » Croyant à une plaisanterie, Domenico avait répondu sur le même ton, « Tu seras le bienvenu, je ne me dédie pas de ma parole. » Seul Angiola avait compris que son amoureux parlait sérieusement, et son cœur avait battu plus vite que d'ordinaire. Aussi, le dimanche suivant, lorsqu'elle eut servi aux pêcheurs son frugal déjeuner, elle s'empressa de descendre à la plage. Sous un ciel d'un azur intense, la mer, d'un bleu sombre, frissonnait comme un velours épais largement chiffonné. À force de regarder, il lui sembla qu'un point blanc se détachait du milieu des flots. Était-ce une voile ou l'aile d'un goéland ? Bientôt elle fut fixée. C'était une voile qui s'avançait directement sur Castelletto. Fascinée par ce spectacle si nouveau pour elle, elle n'en pouvait détacher son regard. Enfin, elle distingua le léger esquif monté par deux hommes, l'un qui s'occupait de la manœuvre, l'autre du gouvernail. C'était Flavio. Éperdue, elle courut appeler Domenico. « mon père, venez vite !» Étonné, le pêcheur sortit et demeura stupéfait en voyant la barque, le cap dirigé sur son île. « Eh bien ?» demanda Flavio en sautant en terre. « Ai-je tenu ma parole ?» Le pêcheur, pâle d'émotion, tenait la main de sa fille. « Tiens, » dit-il en la plaçant dans celle de Gioja, « si tu n'as pas employé de maléfice, prends-la, elle est tienne. » Peu de mots suffirent au jeune homme pour expliquer sa découverte, et la semaine suivante, il épousa Angiola dans la cathédrale d'Amalfi. L'histoire est jolie, dit aussi Cicérone, mon compagnon de voyage. Par malheur, 120 ans avant l'époque où vivait notre héros, Guyot de Provins avait décrit, en des vers bien connus, la boussole qu'il appelle Marinette. Et la preuve que cet instrument est bien français, c'est cette fleur de lys qui se trouve au point nord de la Rose des Vents. La fleur de lys, riposta le Cicérone, vous oubliez qu'on l'appelle Giglio, et que Giglio et Gioja ont la même signification. L'explication est forcée, repris-je, mais la légende est charmante et je la retiens. E. A. Spol.